Bon, il est temps de parler de la meilleure marque de rails miniature. Non, je plaisante. En tout cas, pour moi. Aujourd'hui, on va parler de Kato. Kato, c'est une marque japonaise qui fait du modélisme ferroviaire. Et je t'explique pourquoi, dans cet épisode, je l'ai choisi. Moi, c'est Manu, et je te souhaite la bienvenue dans Audio de bord.
Audio de bord. Écoutez, découvrez, voyagez. Un podcast immersif produit par DPK Prod.
Je te le disais donc en introduction, Kato c'est une marque japonaise, je crois qu'on en a déjà parlé dans le podcast. L'avantage de cette marque, c'est que les Japonais ont tout compris. Les gars ont vraiment tout compris puisqu'ils partent du principe qu'on peut jouer avec du miniature ferroviaire, mais que quand on a fini de jouer, eh bien, on doit pouvoir le ranger facilement. Ça veut dire qu'on doit aussi pouvoir le sortir et l'assembler facilement. Donc, Kato a trouvé le moyen de nous permettre de vraiment tout assembler extrêmement facilement. Et je dis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, en ce qui me concerne, eh bien ici, j'ai des courbes, j'ai des lignes droites. J'ai la même chose, mais en double voie. C'est-à-dire que double courbe, double ligne droite. Alors justement, tu vois, regarde, si on s'arrête sur cette histoire de double voie, la majorité de constructeurs de rails miniatures, eh bien, ils se sont pas emmerdés à faire des doubles voies, en vérité. Kato, lui, a dit, bah, ça fait chier, quoi, de mesurer entre deux voies, et puis te dire, bah voilà, ça fera l'espace entre deux voies, et ça te permettra de faire deux circuits comme ça, côte à côte. Chiant. Non. Les gars de chez Kato ont dit, bah non, on va faire un truc moulé, avec la bonne distance respectée entre les deux voies, et on va proposer des packs double voie à assembler facilement. Voilà. Donc, je le disais, tu as des droites en double ou en simple, tu as des courbes en double ou en simple, tu as des différents rayons en double et en simple, tu as des aiguilles en double et en simple. D'abord en simple, ça te permet de avoir une voie et basculer sur deux voies. Et en double, eh bien, ça te permet de faire la même chose, mais en double voie. C'est-à-dire que tu as ton train qui arrive sur la voie de gauche, tu peux facilement la faire basculer sur la voie de droite. Voilà. Avec un équipement dédié, très simple à assembler. Tout est vraiment conçu pour te faciliter la tâche. De la même manière que, par exemple, je sais pas, tu as une voie simple qui arrive sur une aiguille et tu vas en faire une voie double avec tes ensembles de double voies. Eh ben, ils ont conçu le truc pour que la courbe qui correspond au redressement de ton aiguille, hein, parce que tu sais qu'une aiguille, tu as une voie droite et puis tu as une voie déviée. Celle-ci, elle a un degré de virage. Les aiguilles que moi j'ai, c'est 15 degrés, je crois, de mémoire. Pour permettre le redressement de cette voie déviée et atteindre l'écartement spécifique pour relier mes rails à une double voie, eh ben, ils ont prévu une courbe spéciale, c'est quand même assez fou. Pareil pour les branchements, eh ben, tout est prévu pour être débranché facilement. Donc tu as une prise d'un côté qui rentre dans l'appareil de voie, de l'autre côté une autre prise que tu vas pouvoir clipser dans une rallonge par exemple. Et finalement enficher toutes tes rallonges comme ça au fur et à mesure les unes derrière les autres, pour aller câbler le tout sur soit un interrupteur qui possède une fiche identique à ta rallonge en fait, et le tout va pouvoir se clipser très facilement sur une alimentation. Donc vraiment tout est conçu pour. Je te parlais aussi potentiellement des signaux, alors moi j'en ai pas pris hein, puisque je trouve pas que ce soit très pertinent pour moi, mais c'est pareil, les signaux tu les connectes directement sur des alimentations qui sont prévues pour, et terminé quoi en fait. Alors je te parle des aiguilles, je t'en ai un tout petit peu parlé en début, en t'expliquant qu'effectivement on a des courbes de redressement, on a des interrupteurs qui permettent de manipuler les aiguilles, C'est très très facile à mettre en place. Tu branches ton interrupteur sur ton alimentation, tu relis ton aiguille à ton interrupteur et clac, terminé, ça fonctionne. D'accord ? C'est vraiment aussi simple que ça. Pas de soudure, pas de... rien du tout. Tout est enfichable facilement, enfin tout est vraiment propre. Et on a différentes aiguilles chez Kato. Nous avons les types 4, les types 6 hein, en aiguille simple, et les types 4 peuvent être configurés. Et je te propose de te montrer comment et pourquoi eh bien, on peut les configurer. Alors j'ai ici ma petite boîte avec mes tournevis magnétique, tout petit tournevis magnétique. Tac. Et je vais aller chercher une aiguille commandée sur un site japonais. Et c'est pour moi l'occasion de te parler de Julien. J'espère sincèrement que tu auras un Julien dans tes contacts si jamais tu te lances dans le modélisme ferroviaire, puisque Julien de Strasbourg, ça a été un monsieur absolument adorable avec moi. Le pauvre, je l'ai sollicité tellement de fois pour des conseils de toutes sortes, en vérité. Et en fait, ce petit monsieur a été extrêmement important dans ma progression de l'apprentissage du modélisme ferroviaire à l'échelle N, puisque c'est grâce à lui que j'ai pu choisir tous mes coupons différents de rails, mais surtout à me donner les références de ces coupons de rails pour que moi, de mon côté, je puisse me faire un petit fichier Excel ou fichier Numbers, dans mon cas, dans lequel j'ai mis mes références. J'ai une colonne référence et puis j'ai la description du coupon de rail. Si j'ai besoin de recommander, eh bien, ça me permet de savoir ce que je dois pouvoir commander avec la référence, puisque sur les sites de modélisme, bien évidemment, ce qui est mis en avant, c'est la référence. Les descriptions ne sont pas toujours très très bien faites, surtout quand ce sont des constructeurs étrangers. Voilà, donc là j'ai une aiguille, c'est une aiguille, une aiguille gauche de chez Kato, une aiguille de type 4. Alors je précise ça, puisqu'en fait les aiguilles de type 4 chez Kato ont l'avantage de pouvoir être configurées d'une certaine manière. Par défaut, quand elles sortent d'usine, les extrémités, que ce soit la pointe ou les deux talons, en dévié ou en direct, ne sont pas alimentés en fonction de la direction de l'aiguille. Donc par exemple, si mon aiguille est renversée en direct, alors la partie déviée n'est pas alimentée électriquement. Ça a pour effet, si par exemple, on a un train qui est juste avant l'aiguille, côté dévié, eh bien ce train-là ne sera pas alimenté, donc le son se coupera, donc la totale. Moi, je voulais pouvoir alimenter toutes les sorties. En fait, et pour ce faire, Kato a prévu le truc. Eh bien, il y a des petites vis qu'on doit déplacer en fonction de ce qu'on veut, comment on veut configurer l'aiguille. Donc, on peut configurer l'aiguille avec une alimentation au niveau de la pointe, au niveau du talon, et puis le cœur de l'aiguille. Mais ça, c'est surtout pour les petites locomotives. Voilà, chose que Julien m'a appris. Et ce très cher Julien, justement, lorsque j'ai commandé mes premières aiguilles, je lui ai dit, mais comment je peux faire pour savoir dans quelle position il faut mettre ces vis, puisque c'est vraiment des vis extrêmement petites. Julien s'est proposé de me faire un marquage. Donc, il a modifié mes aiguilles. Il a coincé au niveau des petites vis un riselant. Et ça m'a permis de voir dans quelle position il fallait positionner mes vis sur mon aiguille pour que toutes les parties de mon aiguille soient alimentées. Donc je vais te montrer comment on fait, c'est très simple. Maintenant que je sais, j'ouvre mon aiguille toute neuve. Du coup, on est sur une aiguille gauche, d'accord ? On va la retourner, cette aiguille gauche. Ça veut dire que, vu qu'on l'a retournée, maintenant notre voie déviée part sur la droite. Bon, et de sur la partie gauche, c'est droit. Je prends mon petit tournevis magnétique sur cette aiguille. Nous avons, si on la prend de manière verticale avec la pointe de l'aiguille vers le bas, à peu près, je dirais, au milieu de l'aiguille, un premier trou vertical. C'est-à-dire que c'est un trou avec une partie ronde en haut. Ça se rétrécit en allant vers le bas. Puis nous avons une deuxième partie vers le bas, un peu comme un 8. Voilà. Ça permet en fait de vraiment distinguer deux vis, en fait. Vraiment, vraiment. Une vis en haut, une vis en bas. Un peu plus haut, nous avons la même chose, un 8, mais celui-ci est allongé, avec un trou, un rond sur la gauche et un trou rond sur la droite. Et puis au-dessus, juste au-dessus du trou droit du 8 horizontal, nous avons un autre 8 vertical. Voilà. Donc là, par défaut, quand on reçoit l'aiguille, elle est configurée pour que simplement les voies qui sont pointées par l'aiguille, hein, quand on bouge le petit bouton là, soient alimentées. Mon aiguille pointe vers la voie déviée, la voie directe ne sera pas alimentée. Si ma voie directe est pointée, alors ma voie déviée n'est pas alimentée. Moi, je veux que tout soit alimenté. Donc pour ce faire, on va devoir déplacer toutes les vis à l'opposé de l'emplacement où elles sont. Dans le même, bien sûr, dans le même 8. D'accord. Notre premier 8, qui se trouve au milieu de l'aiguille, la vis actuellement se trouve sur la partie haute du 8. Donc on va positionner notre tournevis magnétique, tourner dans les sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, et là je suis en train de dévisser ma toute petite vis. On est très vigilant d'avoir un tournevis magnétique pour que la vis reste aimantée à notre tournevis. Sinon, on risque de la perdre. C'est extrêmement petit. Si malheureusement elle se déboîte, en tout cas avec ses doigts, c'est pas évident de la repositionner correctement sur le tournevis pour pouvoir la revisser. Donc on est vraiment vigilant par rapport à ça. Et puis quand on a dévissé, eh bien on vient délicatement positionner notre vis sur la partie basse de notre 8 et on va revisser. Voilà. Et là, c'est tout bon. Ma vis est positionnée sur le rond du bas de mon premier 8, tout en bas. On va faire la même chose avec le 8 du milieu, celui qui est horizontal. Nous allons déplacer notre vis qui est sur la droite, sur la gauche. Et le troisième 8 vertical, pareil, la vis est positionnée en bas de ce 8. Nous, on va la positionner en haut du 8. Voilà. Et là, je viens de configurer mon aiguille pour que toutes mes voies soit alimenté. Et je peux ranger mon aiguille et passer bien évidemment à l'aiguille suivante. J'en ai encore quatre autres à configurer du genre. Donc c'est pas compliqué quand on voit rien. Il faut juste être vigilant et avoir les bons outils pour pas perdre la vis. Parce que si on perd la vis, là si j'avais perdu la vis par contre, ça aurait été vraiment compliqué pour la retrouver, surtout sur la moquette du studio par terre. Je n'aurais jamais pu la retrouver seule. Il fallait que je fasse appel à quelqu'un, ça c'est sûr et certain. Alors Kato, par contre, de base, ils avaient prévu de faire de l'analogique. Donc on n'a pas de machine avec des sons qualitatifs chez Kato. On a du numérique, beaucoup de TGV en numérique chez Kato, mais le peu des machines sonorisées que j'ai entendues, c'était pas dingue. C'est pas les meilleurs pour ça. Qu'est-ce que je peux te dire de plus ? Eh ben pas grand-chose, je sais que de mémoire, Kato fait de l'échelle N et fait du HO. Moi j'ai choisi N, bon ben tu connais déjà mon engouement pour le N. Le rapport long et place... Voilà, faire un gros réseau dans peu de place. Alors aujourd'hui, c'était un épisode assez informatif et un peu technique. Ça marque probablement un grand tournant dans mon installation de réseau de modélisme ferroviaire à l'échelle N, puisque j'attendais de faire cet épisode pour pouvoir commencer à aller installer mon plateau dans mon salon, puisqu'il est terminé, ça y est, depuis peu, mais il est terminé, en tout cas une partie. Et j'ai acquis suffisamment d'appareils de voix pour commencer à installer la partie basse de mon réseau. Alors si tu te souviens, il va y avoir une partie basse avec la gare cachée, une sorte de boucle de retournement, une grande rampe hélicoïdale qui va monter près de 20 cm, et au-dessus, donc sur la partie haute, un autre réseau, enfin un autre réseau, c'est le même en vérité, mais une autre partie du réseau, je dirais plutôt. Le tout s'exposera sur 3,50 m de long et 1 mètre de large. Ça risque de faire un très très beau réseau, j'ai vraiment hâte d'avancer là-dessus. Et j'avais besoin de ces aiguilles pour pouvoir commencer ma gare. et je pouvais pas les installer tant que je t'avais pas montré comment on pouvait configurer ces aiguilles de type 4. Maintenant que c'est fait, eh bien, je vais pouvoir me lancer enfin dans la réalisation du réseau. Bien, merci d'avoir suivi cet épisode. Et puis, ben, si tu as des questions, n'hésite pas à le faire en commentaire ou par WhatsApp en vocal. Je serais ravi de pouvoir te répondre. Si tu as envie de te lancer dans le modélisme ferroviaire à l'échelle N, bien évidemment, moi, je te recommande Kato. Et si tu as besoin de mon fichier Numbers ou Excel pour les références, eh bien, n'hésite pas à me le faire savoir. Et puis, je te dis à plus tard. C'était Manu dans un épisode d'Audio de bord.
Besoin de prendre contact ? WhatsApp plus 33 6 20 59 38 97. Par Facebook, Instagram, Threads ou TikTok, @dpkprod. DPKprod, du son à votre image. À votre image.